Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Alors, je reviens avec ce podcast pour continuer à parler de la vie relationnelle dans les oasis, en tout cas telle que je la vis, de manière totalement subjective, bien que assez expérimentée maintenant, parce que ça fait depuis 2003 et même avant que je suis dans des questionnements collectifs et des vécus collectifs. Et comme je l'expliquais dans le premier podcast, j'en ai vécu des reliefs très importants avec, on pourrait dire, le plus haut potentiel relationnel que j'aurais espéré vivre avec un groupe jusqu'à le plus désastreux effet de la vie relationnelle en groupe, qui est celui de la violence, de l'exclusion, du déracinement, de l'exil. Il y a des traditions où mon père me racontait que la plus grande punition que l'on pouvait faire subir à un être, c'était de l'exiler de sa communauté. Donc ça, c'était le plus grand châtiment. Et quelque part, je comprends. Je comprends ça, parce que c'est vraiment extrêmement perturbant. Et on peut imaginer que pour des peuples qui vivent en symbiose collective et qui doivent faire face à leur survie quotidienne ensemble, parce qu'ils se nourrissent de ce que la nature propose, ou ils s'organisent en micro-société pour survivre, et bien effectivement, être exilé dans ce cas-là, parfois ça veut même dire la mort. Donc c'est quelque chose de très très grave, on ne peut pas imaginer plus. Pour ce qui nous concerne, évidemment, ce n'est pas du tout notre cas, et on est dans des conditions qui nous permettent de vivre ce drame de manière complètement sécure. Et il n'y a pas de violence génocidaire comme ce que vivent certains peuples, même à l'heure où je parle en ce moment, puisque la terre est secouée de guerres, comme toujours, entre peuples frères. C'est souvent des communautés qui vivent à proximité, qui vivent dans cette fraternité de territoire, de mode de vie, d'habitude, de quotidien, qui vont s'entre-déchirer jusqu'à la mort. C'est ce qui se passe en Ukraine et c'est ce qui se passe aussi actuellement en territoire israélo-palestinien. Donc on est dans des déchirements et des violences que les uns font aux autres et que les autres font aux uns. Et ça tourne, et l'oppresseur devient opprimé, et ça n'en finit pas. Et on n'en finit pas de ne pas s'entendre, de ne pas se comprendre, de ne pas prendre soin les uns des autres. Donc ça, c'est d'une récurrence déconcertante depuis très longtemps, depuis beaucoup trop longtemps. Mais si c'est là, c'est que c'est ce que nous avons à vivre et à traverser. Alors autant le faire avec le plus de conscience possible. Donc lorsque nous avons changé de lieu et nous nous sommes trouvés avec un nouveau collectif qui s'est constitué de manière, comme je l'expliquais, très spontanée, petit à petit, sans réel projet de communauté. Il y avait juste un lieu, nous parachutés dans ce lieu, énormément de travaux à faire, des gens qui sont venus nous aider, qui ont trouvé que c'était plutôt chouette d'être là, qui ont trouvé du sens aussi à soutenir et participer à des projets d'autonomisation alimentaire, de développement entrepreneurial dans le sens de la transition énergétique, écologique, et surtout des gens qui sont très concernés et enthousiastes à l'idée de soutenir les enfants dans la création d'une école. On a accueilli, recueilli toutes les formes d'aide et petit à petit, il y a un collectif qui se crée. Là, on est une petite trentaine, je crois, avec les enfants. Et le collectif continue de se designer, de se structurer en dehors de notre volonté volontaire. Il n'y a pas de volonté volontaire chez nous, les fondateurs, d'obtenir tel ou tel corps social, tel ou tel résultat. Et ça, c'est un grand changement par rapport à notre première implication dans une oasis. C'est qu'on a décidé de vivre avec ce qui vient, ce qui est là, d'être plutôt obéissant à ce que l'univers nous envoie. Ça a son inconfort. Je ne peux pas nier qu'il y a une part inconfortable. Mais autant autrefois, je pensais savoir ce qui était nécessaire et bon pour un collectif. Autant aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons traversée, je ne sais plus, je ne sais pas. La seule chose que je sais et la seule chose qui est en mon pouvoir, c'est ce que ça me fait vivre à l'intérieur de moi et ce qui est, c'est-à-dire ce qui se passe au quotidien entre les personnes, entre les personnes et le projet, entre les personnes et le lieu. Et je suis dans l'acceptation de vivre ce quotidien avec ses joies et ses défaites, ses moments heureux, ses moments difficiles, ses traversées. Et là aussi, je le vis différemment parce que je ne considère plus aujourd'hui que lorsqu'on est tous contents, heureux, solidaires, dans la coopération, l'enthousiasme, tout ça, ben, c'est un aboutissement ou un but à maintenir ou à atteindre. Et quand on est dans le creux de la vague, dans les conflits, dans les doutes, les hésitations, les ras-le-bol, les envies de quitter le navire, je le vis plus non plus comme une conclusion ou quelque chose qui serait comme une conséquence de la vie collective et une forme de fatalité redondante qu'il faudrait écouter pour ajuster nos idéaux avec la réalité. Parce qu'en fait, la réalité, c'est tout ça, c'est l'ensemble de tout ça. C'est des moments qui sont des moments joyeux, faciles, porteurs, enthousiasmants. Et puis, il y a des moments qui sont vraiment plombants, où tout nous paraît difficile, où tout nous paraît à remettre en question. On ne sait même plus pourquoi on est là, où on se désespère, où on se désole de ce qui se passe entre les personnes, par exemple. Parce que c'est surtout ça, en fait, la grande difficulté, parce que tout ce qui est matériel, tout ce qui est technique, tout ce qui est administratif, financier, juridique, etc. Si on s'y met, on trouve des solutions. On a des capacités pour résoudre un grand nombre de problèmes, en fait. Mais c'est pas ça qui nous plombe. Ce qui nous plombe, c'est le fait que par moment, il y a comme plus d'espoir que les êtres humains sont faits pour coopérer et s'entendre, quoi. Parce qu'on arrive à de telles situations douloureuses, difficiles, que ça peut même faire douter en se disant « mais si c'est pour se faire vivre ça, à quoi bon être en oasis ?» Puis à quoi bon essayer de créer un lieu qui soit harmonieux pour les enfants si nous, les adultes, on n'est pas foutus d'être harmonieux entre nous et de leur proposer un environnement humain qui soit cohérent, joyeux, mature, adulte, responsable, conscient. Comment est-ce qu'on peut accueillir ces diverses réalités ? Lorsqu'on est arrivé dans la région, on a pris connaissance de plusieurs collectifs existants déjà autour, certains membres des oasis et puis d'autres non. Et ce qui m'a frappée dans la première année, c'est de me rendre compte qu'elles étaient toutes plus ou moins en crise, où elles l'avaient été, où elles étaient dans un processus d'exclure une personne ou une famille, un processus toujours douloureux. Et en regardant ce panorama, je me suis dit, bah oui, c'est en fait la réalité de ces collectifs, c'est ça aussi. Tout le monde est confronté à un moment donné à ces questions, et c'est difficile. Et il n'y a pas une réponse. Et ça m'a renvoyé bien sûr à nous et à ce que nous vivions en interne dans ce démarrage du projet. Puisque très très vite, au bout de quelques semaines seulement, il a fallu que je remette ma casquette de médiatrice et que j'aide les personnes à réguler leurs relations avec plus ou moins de succès. Parce que je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas ce pouvoir. Et ça, je m'en suis rendu compte petit à petit. Autant la médiation avec les enfants, parce que j'ai des centaines de médiations à mon actif à la ferme des enfants, entre 2016 et 2021, j'ai fait des médiations au quotidien et j'avais beaucoup de satisfaction parce que je voyais que chez l'enfant, le drame ne s'inscrit pas, il ne s'ancre pas. Les enfants, ils ont une capacité à tourner la page et à retrouver leur homéostasie relationnelle intérieure joyeuse que les adultes n'ont pas forcément. Il y a certains peut-être qui y arrivent, mais ça reste des exceptions. La plupart des adultes créent une mémoire souffrante, donc des dossiers relationnels. Si avec quelqu'un ça n'a pas fonctionné à un moment donné et que ça a été douloureux, difficile, tout de suite il y a un dossier qui s'écrit sur le lien avec la personne et des jugements. De toute façon, cette personne elle est comme ça. Des procès d'intention. Si elle a été comme ça, c'est qu'elle va potentiellement le refaire. Je ne peux pas lui faire confiance. De l'insécurité. Si une personne m'a mise en insécurité par ses comportements dans la relation, alors mon insécurité demeure au-delà des discussions que nous avons pu avoir pour nous mettre au point. C'est oui, j'entends que tu as fait ci, tu as fait ça pour telle et telle raison, j'entends que peut-être tu en es désolé, j'entends que tu t'excuses, j'entends tout ça, mais néanmoins, intérieurement, je ne vais le plus souvent pas pouvoir passer à autre chose. Je ne vais pas pouvoir résilier le dossier. C'est quelque chose qui va continuer d'agir en arrière-fond le plus souvent. C'est ce que j'observe. Qu'il n'y a pas vraiment de résolution. Ou en tout cas, que la condition indispensable pour que cette résolution ait lieu, c'est, comme le dit une nouvelle thérapeute là, que nous avons rencontrée récemment, qui s'appelle Aude, qui est merveilleuse. Je remercie le messager et je prends soin du message. Donc le messager, c'est la personne qui vient m'activer ou qui vient révéler qu'il y a quelque chose pour moi dans la relation qui est problématique. Je ne supporte pas tel comportement ou je me suis sentie violentée ou en insécurité dans telle situation. Et lorsque c'est abordé avec la personne, bah, c'est une étape. C'est une étape où peut-être chacun peut entendre ce que l'autre vit dans cette situation. Mais c'est une étape insuffisante, c'est-à-dire que le reste du chemin, c'est à moi de le faire. L'autre ne peut rien pour moi. C'est pour ça qu'on parle de remercier le messager. C'est juste, ben merci, j'ai vécu ça grâce à toi, j'ai vu comment ça faisait à l'intérieur de moi quand il se passe ça, ça, ça. Mais maintenant, voilà, je peux entendre que l'autre, si l'autre est à l'aise avec ce qui a été vécu, ou s'il le justifie, ou s'il en est désolé, ou s'il pense le reproduire ou l'abandonner, ce comportement, enfin, quels efforts il peut faire pour mettre plus agréable aussi, ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que la difficulté ne se reproduise pas. Tout ça, ça peut se discuter, il n'y a pas de souci. Mais ça ne suffit pas dans le sens où, si j'ai été activée émotionnellement et mis en insécurité par la situation, c'est que j'ai quelque chose à regarder en moi plus profond. Parce que bah, la prochaine personne qui va arriver avec le même comportement, bah, ça va à nouveau réactiver ma souffrance. Et à nouveau, je vais me retrouver dans la difficulté. Et à nouveau, je vais demander une médiation pour que cette personne entende ma difficulté et puis lui faire part de mes demandes, etc. Mais ça, ça peut durer à l'infini. Et puis, ça peut désespérer aussi. Parce qu'à un moment donné, on se dit, bah, mince, je viens dans une oasis pour vivre un certain confort relationnel avec des gens qui ont des valeurs partagées avec les miennes. Et puis, en fait... je me retrouve dans l'inconfort, le désagrément, l'insécurité, où je me retrouve seule aussi. C'est aussi le témoignage de certaines personnes ces derniers temps. Et je pense que j'aurais pu témoigner comme ça aussi dans ma traversée du désert, là, à me dire, ah ben mince, je suis seule en fait. Je suis seule avec mes problèmes, je suis seule avec ma souffrance. Je vis au milieu de plein de gens qui sont rassemblés dans un écosystème dont je fais partie. Et qui sont censés être plus humains. Et moi aussi, je suis censée être plus humaine et donc trouver du réconfort dans cet humanisme. Et puis en fait, dans ma souffrance profonde, mais je suis complètement seule. En fait. Même mon conjoint, il ne peut rien pour moi à cet endroit-là. Alors oui, je peux m'épancher, je peux partager, je peux pleurer dans ses bras, ou dans les bras de quelqu'un d'autre, de l'oasis, de bienveillant. Je peux aller faire une séance avec l'un, avec l'autre, un massage, une thérapie, un soin, une guérison. Mais tout ce chemin-là, c'est le mien, il m'appartient. Et je ne peux pas attendre du groupe qu'il prenne en charge cette partie. Il n'y a rien qui prendra en charge cette partie. Même le meilleur médiateur qui soit, il n'a pas le pouvoir de transformer ma relation à l'autre. Lui, il est juste, à un moment donné, médiateur. C'est-à-dire, le mot explique bien ce que c'est. La fonction de ce rôle, c'est comme un trait d'union qui permet d'ouvrir peut-être une expression mutuelle, un partage, voilà, mettre à plat, mettre les cartes sur la table, regarder, évoquer des solutions éventuellement. Voilà, on pourrait faire ça, mais mon expérience me montre que si profondément le travail n'est pas accompli individuellement par la personne qui est en difficulté, alors la difficulté sera récurrente. Et que de récurrence en récurrence, elle peut devenir un véritable handicap pour le développement de l'oasis. Ça, ça concerne tout le monde. Quand je parle comme ça, je ne vise absolument personne parce que je pense que nous sommes tous, absolument tous concernés. Des fois, on a l'impression qu'on est un peu dans le haut du panier parce que On peut avoir le sentiment d'être du bon côté, du côté de ceux qui ont des comportements corrects, du côté de ceux qui œuvrent jusqu'au sacrifice presque pour la communauté et qui donc ont un crédit auprès du collectif qui est indiscutable. Et on peut avoir l'impression qu'on se remet tellement en question et que notre état de conscience est plus élevé que celui de certains. Et que donc, finalement, c'est un peu aux autres à faire le boulot. Et puis, s'ils ne le font pas, qu'on est fondé de leur demander de partir, même. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé cette dernière année. C'est le phénomène de l'exclusion dans les oasis. Et je me suis questionnée sur qu'est-ce qui donne envie à un groupe de dire, donc à un groupe majoritaire, de dire à une minorité, vous n'êtes plus bienvenue dans le projet et vraiment, on vous demande de partir. C'est une question qui a été beaucoup évoquée aussi à l'oasis de Poulard ces derniers temps. Et je me suis vue passer par différentes phases. Par une phase qui pouvait acquiescer cette volonté d'exclure une personne qui met d'autres personnes en difficulté par ses comportements. Et donc moi aussi j'ai abondé dans cette énergie de protection qui veut que la personne qui pose problème s'en aille. Et il se trouve que dans la situation dans laquelle nous sommes... cette oasis, ce départ n'a pas eu lieu. Même si un certain nombre de personnes se sont mis les vents debout en disant « Non, mais c'est pas possible, c'est pas acceptable, on peut pas continuer à vivre avec quelqu'un qui va provoquer des réactions chez les autres comme ça. » Un concours de circonstances a fait que l'exclusion n'a pas eu lieu. Et j'y suis pour quelque chose à la place aujourd'hui en tant que médiatrice et en tant que présidente de notre organisation fondatrice. Si j'avais été beaucoup plus autoritaire et incisive sur cette situation, peut-être que ça se serait sans doute très mal passé avec des procédures ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, la personne qui gratouille les autres, elle serait peut-être partie. Moi, j'ai eu besoin de vivre autre chose à cet endroit-là, dans le sens où je crois que je n'y crois plus à la séparation d'un monde entre les bons et les mauvais, les bons comportements et les mauvais comportements, les personnes nuisibles et les personnes bienfaisantes dans un collectif. Parce que d'abord, j'ai moi-même vécu l'identité qui m'a été collée d'être une personne à exclure et... je ne suis pas d'accord avec les motivations ou les argumentations qui ont été avancées pour m'exclure, ni avec les qualificatifs ou les jugements ou les diagnostics qui ont été faits sur moi. Je parle de moi, on était évidemment plusieurs, mais je parle de moi parce que c'est évidemment l'expérience qui me concerne. Donc je vois que c'est à relativiser absolument cette légitimité d'exclure. La légitimité d'exclure me questionne. Et chemin faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être d'autres voies. Et même si je suis rentrée à un moment donné dans l'opposition à la personne qui posait problème, parce que épuisement, parce que fatigue, parce que impuissance, parce que sentiment de danger, de mettre en danger le groupe. Et à un moment donné, je me suis dit, si je veux agir pour ce collectif dans un sens qui va lui être positif, au-delà de cette dualité entre les bons membres de l'Oasis et les mauvais membres de l'Oasis qui devraient partir, je pense qu'il faut creuser un peu plus profond en fait dans ce qui se passe réellement. Moi aussi, il y a des comportements qui me dérangent, mais qui me dérangent vraiment. Et je pense que ces comportements-là, ils ont des échelles, évidemment. Il ne s'agit pas de garder dans un collectif quelqu'un qui est ouvertement porteur d'un préjudice qui est incontestable. Par exemple, quelqu'un qui volerait les autres ou quelqu'un, un pédophile ou un psychopathe. Enfin, quelqu'un qui vraiment est ouvertement toxique et dangereux. Évidemment, bien sûr, il faut exclure dans ce cas sans hésiter. Mais après, certains diront, oui, mais moi, des psychopathes, j'en connais. Mais après, ça pose la question de qui sommes-nous pour poser des diagnostics. Parce qu'on est tous un peu psychopathes, finalement. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des psychopathologies qui sont insolubles dans le collectif. Alors, ce qu'on a voulu regarder avec Laurent, ça a été la notion de préjudice. Est-ce que l'oasis est en danger? Et effectivement, à un moment donné, on l'a vu en danger. On s'est dit, si on continue avec cette relation à l'intérieur de l'oasis, on la met en danger parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bien, il y a des personnes qui s'en vont, il y a des personnes qui sont très bousculées par ce qui se passe et on ne va pas pouvoir construire avec quelque chose qui se défait en permanence parce que activé par une difficulté relationnelle. Du coup, cette notion de préjudice pour la raison d'être et l'organisation elle-même, elle est fondamentale, elle est vraiment à mettre au centre. En observant cela, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs solutions et qu'il n'y avait pas seulement la solution de l'exclusion. Il y a aussi la solution de reconnaître les limites de chacun et de voir comment on peut construire avec ces limites. Et là, ça devient très intéressant. Parce que c'est comme si, lorsqu'on est dans cette créativité culturelle de fonder des lieux novateurs, où on va essayer de coopérer ensemble, de vivre ensemble, d'œuvrer ensemble et d'accorder nos violons, eh bien, c'est comme si on se sentait poussé à définir une forme de ce que l'on voulait vivre. Alors, on veut vivre dans le respect, on veut se parler en communication non violente, on veut une gouvernance au top qui nous permet de savoir exactement où sont nos rôles, nos périmètres, nos redevabilités, comment on interagit les uns avec les autres. Et comme si on posait une définition de tout ça, un peu idéale, et que les uns et les autres étaient invités à se conformer à cette organisation et à ses valeurs. Et c'est là que la violence devient un peu insidieuse, parce que lorsque quelqu'un ne peut pas rejoindre facilement ce qui a été défini en amont, eh bien, à ce moment-là, il est vécu comme encombrant ou incompétent ou non conforme aux attentes du groupe qui s'est installé autour de ses idéaux. Et cette non-conformité est l'endroit où il y a de l'adversité. Et je me suis demandé si on ne pouvait pas prendre la question autrement, à savoir peut-être considérer que chacun d'entre nous est différent, que nous avons des facilités et des difficultés, que nous avons des compétences et des incompétences, que nous avons des zones d'ombre, des zones de lumière, que nous avons chacun un vécu, que certains ont vécu beaucoup plus de violence que d'autres, que chacun a fait ce qu'il a pu avec son vécu aussi, et qu'il est aujourd'hui, ici, maintenant, rassemblé autour d'un projet collectif avec son histoire et avec ce qui le constitue. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait faire de toutes ces caractéristiques non pas un lissage un peu dogmatique pour se conformer à l'idéal non violent, respectueux, écologique, paisible que chacun de nous attend. Et en vérité, chacun de nous l'attend. Les besoins de bien-être et de bien-vivre, ils sont universels. Et même la personne la plus désagréable qui soit, en fait, elle a exactement le même besoin au fond que la personne qui est déjà incarné des comportements beaucoup plus agréables, beaucoup plus doux pour les autres. Donc, est-ce que nous pouvons tenir compte de cette biodiversité? Donc, en voyant qu'une personne qui manifeste des comportements de souffrance, elle a aussi la richesse de son expérience. Souvent, les personnes qui les manifestent, ce sont des hypersensibles qui ont beaucoup de difficultés à transformer ou digérer leur histoire. Parce que cette histoire, elle les a heurtés, elle les a écorchés. Et que la cicatrisation est difficile. Du coup, c'est vrai que les personnes souffrantes, elles sont souvent difficiles à vivre. Mais on l'est tous à un endroit souffrant. Mais il y a des degrés. Il y a des degrés, et surtout, ce qui va faire la différence, de mon point de vue, c'est comment chacun prend la responsabilité de sa propre souffrance et de ses difficultés. Et dans cette prise de responsabilité, il ne s'agit plus d'aller chercher l'autre et de le pointer du doigt ou de se mettre à plusieurs pour dire « on a un problème dans l'oasis, c'est lui ou c'est elle », mais plutôt de tourner toute l'énergie et toute l'intention vers soi et de dire « quand je suis face à cette souffrance-là ou à cette difficulté-là, qu'est-ce qui se passe pour moi ? comment je pourrais ne plus m'accrocher ou ne plus m'attacher à ce que le messager délivre comme message. Le messager, c'est celui qui vient nous gratter là où ça fait mal. Parce que si ça fait pas mal, bon, l'autre, il fait ce qu'il fait, il dit ce qu'il dit, c'est sa responsabilité, je passe mon chemin. Si je m'arrête sur mon chemin et que je dis « Ah ben là, c'est intolérable », ça veut dire que ce que fait l'autre, ce que dit l'autre, me concerne directement. Ça m'appartient quelque part. En tout cas, je me l'approprie. Parce que si je ne me l'appropriais pas, je passerais mon chemin. Si je ne passe pas mon chemin, c'est que je suis concernée. Et si je suis concernée, ça veut dire que j'ai quelque chose à comprendre, à apprendre et à transformer, qui est précieux. Et c'est pour ça qu'on parle de remercier le messager, parce que ce messager-là, il m'apporte une lumière sur une part de moi que je n'avais pas vue encore. Alors encore une fois, j'insiste sur le fait que quelqu'un qui vraiment porte des préjudices ouverts à un collectif, oui, évidemment, il faut s'en protéger. Mais lorsque c'est quelqu'un qui ne nous revient pas, qui nous agace, qui nous dérange, qui nous fatigue, avec lequel nous ne sommes pas d'accord, voilà, qui a l'air d'être un opposant à ce qu'on pense être le bien, etc. Donc là, c'est intéressant parce que ça nous permet vraiment d'aller explorer comment je peux prendre soin de la partie en moi qui est chahutée par la présence de cette personne. J'en suis là, je navigue sur cette expérience et c'est une expérience qui m'enseigne énormément. Je fais quasiment plus de médiation dans l'Oasis alors qu'on n'a jamais été aussi nombreux. Je ne sais pas où ça nous emmène, je ne sais pas si c'est vertueux ou pas, ou si c'est que les personnes qui sont là, elles ont une certaine autonomie et capacité à se parler. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. J'ai le sentiment qu'il y a une forme de désillusion un peu justement sur tous ces outils magiques qui doivent prendre soin de la relation et que les temps sont vraiment à revenir vers soi plutôt, à s'occuper de soi. Voilà, c'est ça que je ressens. Ça ne veut pas dire que la période où on communique, où on échange, où on partage, on met sur la table, on met toutes nos cartes et tout ça, ça ne va pas revenir à un moment donné. Je pense que c'est juste un temps de retour vers soi. Et ça me fait penser à la spirale dynamique, pour ceux qui connaissent ce mouvement de balancier entre être avec soi, en soi, et être avec les autres, pour les autres. La description de la spirale dynamique, qui est une théorie de l'évolution de l'humanité, elle parle vraiment de ce mouvement-là comme un mouvement fondamental qui nous emmène de période en période avec toujours cette tendance à aller chercher la vérité dans le groupe, chez l'autre, obéir à des lois collectives, etc. Et puis, hop, aller chercher la vérité en soi. C'est comme une respiration. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment au cœur de cette respiration, dans le mouvement d'aller vers soi, et que c'est nourri de ce soi qu'on va pouvoir construire avec les autres, en fait. Aujourd'hui, j'en suis vraiment convaincue. Et peut-être c'est ce qui a manqué dans notre expérience précédente, c'est que on est allé, mais vraiment la fleur au fusil, à fond dans des idéaux de groupe, des idéaux collectifs. Oui, la sociocratie, oui, l'holacratie, oui, la communication non violente, oui, les cercles restauratifs, oui, sauver la planète, oui, sauver les enfants, oui, respecter le vivant et pratiquer l'agriculture biologique et les maisons bioclimatiques et tout. C'est comme si toutes nos aspirations, elles étaient à l'extérieur, dans des formes auxquelles chacun de nous pouvait se relier facilement, quoi, comme une bannière, comme un drapeau, enfin voilà, derrière lequel on a tous défilé sans voir que on s'occupait pas de ce qui se passait à l'intérieur de nous, quoi, pas suffisamment. La preuve, c'est que ça a été extrêmement violent et extrêmement destructeur pour le projet. Donc voilà, prenons soin de ce retour vers soi indispensable et servons-nous des autres pour regarder ce qui bouge dedans et ce qui et souffrant. Parce que si on ne prend pas soin de ce qui est souffrant à l'intérieur, et ben ça va à nouveau se diffuser dans le collectif, se mettre en acte, dans des logiques et des dynamiques qui se nourrissent du conflit, qui s'en nourrissent. Parce que le conflit, il est là quand... Le conflit, il a un côté bien pratique. C'est toute une énergie qui se manifeste, parce que cette énergie, elle est là, elle doit sortir. Donc si on ne s'en occupe pas personnellement, on la défoule à l'extérieur. Voilà. On la défoule dans des partis pris, dans des coalitions, dans des storytelling, dans des croyances. Il y a des personnes du bon côté et d'autres du mauvais côté. Et si chacun est vu dans ses comportements comme une opportunité à chaque fois de trouver l'amour en soi, waouh, merci à chacun. Voilà, j'espère que ce podcast vous sera utile et inspirant. Et je continuerai de partager sur ces thématiques dans un prochain podcast. Merci à vous, à bientôt.